Emmanuel Bove, La mort de Dina. Par une belle fin d'après-midi d'automne, Jean Michelet, qui était descendu de tramway à la porte de Champéret, suivait à pied, en flânant, le long boulevard Binot, à Neuilly, à l'extrémité duquel se dressait la villa, qu'il habitait avec sa femme et ses deux enfants. C'était un des derniers beaux jours de l'année. Un vent tiède soulevait la poussière de la chaussée. Tout gardait encore des traces de l'été. Les arbres n'avaient point perdu leurs feuilles, ces feuilles poussiéreuses de fin de saison que les orages n'ont mouillées qu'à demi. Dans les jardins, des tentes claires abritaient les meubles rustiques. Les appels, les voix, les conversations étaient sonores. De temps à autre, une fenêtre ouverte laissait s'échapper vers le ciel bleu les chants d'un phonographe ou d'un appareil de TSF. Monsieur Michelet regarda sa montre. Il était 7 heures. La nuit tombait déjà. Il pressa le pas, non point dans la crainte de faire attendre sa femme, mais parce que, brusquement, il venait d'éprouver le besoin irrésistible d'être chez lui, de parler, de se sentir entouré. Depuis 30 minutes, il n'avait pas prononcé un mot. À 6h30, ses employés, d'une voix soumise, contrastante avec la liberté qu'ils allaient retrouver, avaient pris congé de lui. Peu après, il était également sorti, non sans avoir, auparavant, soigneusement fermé la porte de son bureau situé rue de la Michaudière. Ce court instant de solitude, s'il lui avait paru agréable au commencement, lui pesait maintenant. En marchant, il s'était souvenu de sa jeunesse, au cours de laquelle, tant et tant de fois, la perspective d'une soirée vide l'avait plongé dans un profond découragement, jeunesse interminable puisque, bien qu'il fût aujourd'hui âgé de 47 ans, il y avait à peine 3 ans qu'il était marié. Depuis, il avait pris la solitude en horreur. À elle, il préférait n'importe quelle compagnie. À ses débuts dans la vie, Jean Michelet avait exercé la profession d'architecte. Une ambition raisonnable l'avait poussé à s'établir à son propre compte, à posséder sa clientèle, à être sérieux, honnête et correct en affaires. « Je n'irai pas chercher les clients, ils viendront à moi. Je ne leur promettrai pas monts et merveilles. Et ils seront contents. Ils me recommanderont à leurs amis. Petit à petit, le noyau grossira. » Alors je ne dépendrai de personne et je serai mon maître. » Cette attente stoïque dura 10 ans. La guerre vint. Aussitôt après sa réforme, il abandonna sa profession sur les instances d'un camarade, Gaston Bonelli, pour celle beaucoup plus lucrative d'entrepreneur. Un peu comme chez ces médecins qui deviennent pharmaciens, chez ces avocats transformant leur étude en cabinet d'affaires, chez ses commissaires de police démissionnant pour prendre la direction d'une agence de renseignement, on découvrait sur son visage ce quelque chose de débonnaire et de susceptible, particulier à ceux qui ont renoncé par intérêt. Leur lâcheté est cachée sous la nécessité de vivre. Elle se dégage pourtant des gestes et de la physionomie. En observant M. Michelet, on sentait que les écharpes de la déchéance le frôlaient, que s'il n'avait point d'ennemis, il ne se trouvait pas moins des anciens confrères pour le blâmer, que l'argent gagné à présent l'était au détriment d'une condition sociale plus élevée, car ceux qui persévèrent malgré les privations, l'indifférence de leur entourage, le doute de soi, sont rarement indulgents à ceux plus faibles qui renoncent, bien que ce soit justement dans ces défections qu'ils puisent l'orgueil de continuer. Monsieur Michelet avait souffert de ce mépris et en souffrait encore. Par amour-propre, il avait ménagé une sorte de compromis entre sa vie passée et celle présente. Il n'avait pas voulu être le premier entrepreneur venu. C'était un entrepreneur unique de l'ancienne école, à laquelle pourtant il n'était attaché par aucun lien, qu'il rêvait de devenir. L'honnêteté, la conscience professionnelle, la rectitude quant à ses devoirs et l'indulgence quant à ceux d'autrui étaient ses principales qualités. Ses devis, il se faisait un point d'honneur à n'en jamais dépasser le montant, quitte à en être de sa poche. En quelques mots, il voulait atténuer ce qui, à certains moments, lui apparaissait comme un déclassement par une perfection qui n'eût point existé sans lui, pensait-il, dans sa corporation. Le même enchaînement se découvrait dans sa vie sentimentale. Longtemps, il avait cherché une amitié parfaite. Tendu vers autrui, vers l'affection, vers la tendresse, son enfance s'était passée à attendre l'être idéal qu'il devait, selon lui, rencontrer tôt ou tard sur son chemin. Il avait traversé l'existence aux aguets, préoccupé plus de saisir la chance au vol que de son avenir matériel. Chaque visage nouveau, entrant dans sa vie, lui avait donné les plus folles espérances, chaque attention, une joie maladive qui durait parfois une semaine entière, sans décroître, toujours aussi forte, et qui s'évanouissait brusquement à la première vexation. Car chaque fois qu'il se lia, il fut profondément déçu. Il eut beau tout donner, jamais les partenaires ne l'imitèrent. Et justement, ce qu'il n'acceptait pas, ce qu'il ne voulut jamais accepter, c'était de donner sans recevoir. Il avait bâti une philosophie à lui sur la réciprocité. Elle était la base de tout amour durable. Sans réciprocité, il n'était pas deux êtres au monde qui pussent s'entendre. Mais au début d'une liaison, il se gardait bien de l'exiger et de s'en préoccuper. Il se contentait de se livrer. Ce n'était que plus tard, au premier doute, qu'il pensait à elle, devenant alors ombrageux, jalouse et tyrannique. Lorsqu'il quitta le petit village de Lagny, aux environs de Nancy, où son père exerçait la profession de vétérinaire et où il avait été élevé, pour venir habiter Paris, il avait alors 23 ans, il fit la connaissance d'un étudiant allemand nommé Hans Gilbeut. Jean Michelet avait loué une chambre rue Monge chez une vieille personne, Madame Greuze. Cette Madame Greuze était une veuve bizarre qui, dès 8 heures du matin, était coiffée, poudrée, vêtue de noir jusqu'au cou et dont la préoccupation la plus importante était d'alterner le port d'une dizaine de bijoux de famille. Elle avait une touchante affection pour les jeunes gens à qui elle sous-louait 2 chambres de son appartement encombrées de trop de meubles. Dans l'autre pièce, justement, habitait Hans Schilbeut. Ce fut ainsi qu'il fit reconnaissance. Cet étudiant, dont le cou émergeait d'un col à la Schiller, était végétarien. Il faisait partie de ces adolescents que l'on appelle en Allemagne les Wandervögel. Les cheveux au vent, le sac au dos, vêtus de culottes de velours à bretelles, les Wandervögel parcourent en bande, les dimanches ou durant les vacances, la forêt noire ou la Suisse de Saxe, escaladent le Harz ou le Taunus, accompagnant leur marche de chants et de guitares, couchant à la belle étoile, buvant aux sources mêmes, rêvant de retour à la grâce originelle. Chez Madame Greuze, ce goût de l'espace faisait qu'il ne fermait jamais sa porte. En passant dans le couloir, au bout duquel se trouvait sa chambre, on pouvait le voir, tantôt le torse nu, tantôt vêtu d'un peignoir bariolé, aller et venir, ou assis, en train de lire de très près un livre, ou encore penché comme un mauvais écolier sur une feuille de papier. On pouvait faire du bruit, il ne levait pas ses yeux cerclés de lunettes à monture d'or, car, comme la plupart des gens myopes, il était peu prodigue de ses regards. De certains de ces derniers, il avait également le sans-gêne et l'absence de pudeur. Habitué à être vu sans voir, il en avait pris son parti, si bien que peu lui importait que l'on vît sur sa cheminée, sur sa table, des casseroles de lait, des épluchures d'orange ou de banane, des coquilles de noix. Il faisait sa cuisine lui-même. Le sel, le beurre, qu'il se trouvasse à la portée de sa main, ne le gênait nullement quand il étudiait. La bouteille de bière qui lui servait pour l'alcool à brûler se dressait sur la table de travail. Il l'utilisait même pour adosser, contre elle, un livre ouvert. Les relations qui s'établirent entre les deux hommes, si elles furent, à leur début, pleines d'attention réciproque, n'en eurent pas moins, par la suite, un certain côté comique. Cependant que Jean Michelet avait des habitudes régulières, un jugement raisonnable sur toute chose, des goûts simples, Schilbeut, lui, était gonflé d'orgueil, affichait une admiration sans borne pour la grandeur et la force, se plaignait continuellement de manquer de temps pour travailler. Méprisant le bien-être, les plaisirs, le repos, on le trouvait à n'importe quel moment, plongé dans la lecture ou en train d'écrire, les manches retroussées, la chemise largement échancrée, même en plein hiver. Quand Jean Michelet venait le relancer, ce n'était pas sur le champ qu'il se tirait de ses occupations. Comme une machine lancée à grande vitesse, il ne pouvait s'arrêter d'un coup. Il s'assimilait d'ailleurs à une machine, ou plus volontiers encore à un athlète, et croyait indispensable de prendre pour l'intelligence les mêmes précautions que pour le corps. Jean Michelet, obéissant à un penchant de son caractère, avait tout de suite eu pour cet étudiant une profonde admiration. sa force sauvage, son ardeur au travail, son indifférence, non voulue mais naturelle, pour tout ce qui fait la douceur de l'existence, l'émerveiller. Il aurait voulu le copier. L'impossibilité de le faire, l'architecte ne pouvait aimer sans qu'un besoin impérieux d'imitation naquît en lui, ne tarda pas à l'emplir de plus de respect encore. Un été, comme Jean Michelet se rendait auprès de son ami, il aperçut ce dernier qui avait, ainsi qu'il le faisait habituellement, laissé la porte de sa chambre ouverte, en compagnie d'un jeune homme inconnu. Tous deux semblaient très gais. Tour à tour, ils riaient et parlaient fort. Par délicatesse, Jean Michelet n'osa entrer dans la pièce. Il rebroussa chemin et attendit, avec l'espoir que le visiteur n'allait point tarder à partir. Mais les rires et les éclats de voix, au lieu de cesser, retentissaient avec encore plus de force, semblait-il. Gibeloud pourrait tout de même venir me chercher, pensa Jean Michelet. C'est à lui de faire le premier pas. Il devrait le comprendre. Puisque nous nous voyons chaque soir, il devrait au moins avoir la politesse de s'excuser. Je comprends très bien qu'il soit heureux de retrouver son compatriote, mais cela ne devrait pas l'empêcher de me présenter. Le lendemain, Jean Michelet, croyant que l'inconnu était parti, s'apprêtait à relancer son ami, lorsque dans le corridor, il perçut un bruit de voix. Les deux Allemands étaient encore ensemble. Un liquage avait été ouvert dans la chambre de Gibeloud. Certainement, le visiteur y avait élu domicile. En revenant sur ses pas pour la deuxième fois, Jean Michelet prit la décision de ne plus donner signe d'existence. Une semaine s'écoula sans qu'une fois, Gibeloud, qui, avant l'arrivée de son camarade, avait passé toutes ses soirées en sa compagnie, vint lui adresser la parole. Dans sa chambre, la nuit, l'architecte entendait les deux étudiants bavarder jusqu'à 2 heures du matin. Il ne vivait plus. Une rage sourde montait en lui d'avoir été ainsi mis à l'écart, alors que la veille de l'arrivée du compatriote de Gibeloud, ils avaient projeté d'aller ensemble le lendemain visiter le château de Versailles. Jean Michelet avait prêté quelques livres à Gibeloud. Celui-ci, avec un sang-gêne incroyable, ne songeait même pas à les lui rendre. On eût dit que le jeune architecte n'avait jamais existé. Un soir pourtant, ce dernier ne put se contenir davantage. Comme les deux Allemands chantaient en s'accompagnant d'une guitare en rubanée, Jean Michelet, qui s'était couché, se leva furieux. « Puisqu'ils veulent se moquer de moi, on va bien voir » pensa-t-il. Il suivit le long couloir qui menait à la chambre des deux étudiants. Comme d'habitude, la porte était ouverte. Il s'approcha. À sa vue, Gibeloud posa la guitare dont il s'accompagnait et dit le plus naturellement du monde « Oh, monsieur Michelet, bonsoir. Je ne vous ai pas beaucoup vu 2 jours. Vous m'avez quitté. Ce n'est pas très gentil de vous. Je suis très étonné que je vous voie maintenant. » Devant une pareille inconscience, la colère de Jean Michelet tomba, sans pourtant que sa rancune s'envolât. « Vous auriez pu venir, vous » dit-il finalement. « Jamais, jamais !» répondit l'étudiant. « À aucun prix, je ne voudrais vous déranger. Maintenant, si j'avais su, mon camarade Lautenbach et moi serions venus vous visiter. » Abandonnant ce qu'il avait projeté de dire sur la musique après une certaine heure, l'architecte demanda. « Pouvez-vous me rendre les livres que je vous ai prêtés ? Je vais en avoir besoin ces jours-ci. »« Naturellement, monsieur Jean. » « Attendez, s'il vous plaît, un moment, je chercherai vos livres et je vous les donne. » Gibeloud se leva, cependant que son ami souriait au visiteur qui gardait un visage renfrogné. Après avoir cherché dans tous les coins, l'étudiant les découvrit finalement dans un tiroir où il voisinait avec des poires blettes, ce qui eut le don d'exaspérer encore davantage Jean Michelet. En remerciant à peine, il prit congé, non sans que Gibeloud lui souhaitât, d'une voix doucereuse, de dormir avec les poings fermés et de rêver beau. Une fois seul, Jean Michelet ne se tint plus de colère. « Cela ne lui suffit pas de se conduire comme un goujat, il faut qu'il me tourne en ridicule devant un inconnu. » Une profonde amertume envahissait le jeune homme. La nervosité l'empêchait de rester immobile. Derrière le mur, il entendait les Allemands qui continuaient de chanter. « Cela dépasse tout ce que l'on peut croire. Il faut que je les batte. » Il patienta pourtant 1 heure. À la fin, comme les étudiants venaient d'entonner une sorte de cantique, il sortit dans le couloir et cria avec rage. « Mais taisez-vous donc, la nuit est faite pour dormir. » Il venait à peine de refermer sa porte qu'il entendit frapper discrètement. C'était Schibelout. En termes mesurés, avec une douceur que l'on a peine à imaginer, il venait demander pardon. « Nous ne jouerons plus, dit-il. Je ne pensais pas qu'on écoute jusque chez vous. Je suis triste que j'aie dérangé votre repos. Je vous demande, ne soyez pas fâchés avec moi. Maintenant, bonne nuit, et encore une fois, ne soyez pas fâchés avec moi. » Puis il se retira, sans pourtant faire la moindre allusion au projet qu'ils avaient eu, ni au lien qui les unissait. C'était comme auprès d'un étranger qu'il s'était excusé. Cette aventure affecta profondément le jeune architecte. Le mois qui suivit, il quitta Madame Greuze pour habiter l'hôtel en attendant que des meubles arrivassent de province, car il avait pris la décision de louer un appartement et de vivre d'une manière plus indépendante.